RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. La revue suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Arabie Saoudite ne tolère pas l'ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. MPRRI propose les produits stratégiques à Oman. Le certificat ISPO est insuffisant pour les exportations de l'huile de palme en Europe. Bekasi coopère avec DICA pour la purification de l'eau. La Corée du Sud a aidé 183 milliards rupiah dans la réhabilitation à Palu après le tremblement de terre. Le ministère des Transports est prêt à coopérer avec des étrangers dans le secteur de l'aviation et Tangfang. Le ministre de l'Industrie a dit que la contribution de l'industrie manufacturière indonésienne était la plus élevée dans l'ASEAN. Voici le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a affirmé qu'elle avait communiqué avec le ministre des Affaires étrangères saoudien, Adel Al-Jubeir, au sujet de la déclaration de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Indonésie, Oussama Ben Mohamed Abdullah Al-Shuaibi, sur les médias sociaux. Concernant cette question, selon la ministre Retno, le gouvernement saoudien ne peut pas tolérer l'acte de l'ambassadeur Oussama considéré comme interférer des affaires d'autres pays. La ministre Retno LP Marsudi s'est entretenue avec son homologue saoudien Adel Al-Jubeir le mardi. Elle a déclaré à la presse que les deux ministres ont discuté de la poursuite de la coopération entre l'Indonésie et l'Arabie Saoudite après la visite d'Adel Al-Jubeir il y a quelque temps à Jakarta. Selon Mme Retno, ils ont également discuté de la déclaration de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Indonésie, Oussama Ben Mohamed Abdullah Al-Shuaibi, qui avait été téléchargé sur Twitter. À ce sujet, Mme Retno a déclaré que le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, avait souligné que l'Arabie Saoudite n'avait pas de politique permettant aux ambassadeurs d'interférer des affaires intérieures des autres pays. De plus, l'Indonésie est un pays ami de l'Arabie Saoudite. Le gouvernement saoudien ne tolérera pas les déclarations considérées comme intel ingérence.
Dan tidak bisa dihindarkan bahwa kita juga bicara mengenai masalah isi dari.
Et il est inévitable que nous parlons également la question du contenu de Twitter de l'ambassadeur à Jakarta. Au cours de l'entretien, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite a souligné que son pays n'avait pas de politique et ne tolérerait aucune ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, en particulier si elle se déroulait dans un pays ami de l'Arabie Saoudite comme l'Indonésie. Auparavant, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Indonésie, Oussama Ben Mohamed Abdullah Al-Shuaibi, avait fait une déclaration concernant l'action de la réunion du mouvement de 112 il y a quelque temps à Jakarta. Selon lui, le mouvement était une réaction à l'incendie d'un drapeau avec les mots Tawhid écrits par des membres d'une organisation de masse il y a quelques mois. L'ambassadeur Osama a également mentionné que l'organisation de masse était une organisation mal visée. Bien que la déclaration sur Twitter des médias sociaux ait été supprimée quelque temps plus tard, le téléchargement a attiré l'attention des Indonésiens. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, MPR, Hidayat Nur Wahid, a proposé diverses industries stratégiques indonésiennes avec des produits développés et de bonne qualité à Oman. Les produits proposés sont déjà commercialisés et utilisés par d'autres pays tels que les Philippines et la Thaïlande. Cela a été dit par Hidayat Nur Wahid lors d'une visite à l'Assemblée d'État d'Oman à Mascate, Oman, du 2 au 4 décembre. Antara a rapporté mercredi l'arrivée de Hidayat Nur Wahid et d'autres délégués du MPR, Abdul Fikri Faqih, Muhammad Syafruddin et de l'ambassadeur d'Indonésie, Mustafa Taufik Abdul Latif, ont été accueillis et reçus par le président de l'Assemblée de l'État d'Oman, Yahya bin Mahfouz al-Munziri. Selon Hidayat, la longue distance entre l'Indonésie et l'Oman n'est pas l'obstacle pour les deux pays d'établir des liens d'amitié et de coopération. L'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Guérin, a déclaré mardi que le certificat indonésien d'huile de palme durable, ISPO, n'était pas suffisamment reconnu pour exporter cette huile vers l'Europe. Selon Vincent, l'Union européenne ne fixe pas de normes spécifiques pour l'huile de palme. En tant que deuxième importateur d'huile de palme indonésien après l'Inde, l'Union européenne encourage les pays producteurs à imposer aux consommateurs des normes crédibles, fortes et valorisées par les consommateurs. La norme d'ISPO, qui n'est appliquée que par 15% des producteurs d'huile de palme indonésie, n'est pas encore conforme à la norme mondiale. Il a affirmé qu'un certain nombre de certificats d'huile de palme a été produit en appliquant les principes de durabilité. L'une d'elles est la table ronde sur l'huile de palme durable, RSPO, est en effet plus mondialement reconnue. Fondée en 2004, RSPO a été conçue pour promouvoir la production et la consommation d'huile de palme durable pour l'homme, la planète Terre et la prospérité. 40% des producteurs mondiaux d'huile de palme sont les membres de la table ronde sur l'huile de palme durable RSPO. La ville de Bekasi dans l'ouest de Java coopère avec l'Agence japonaise de coopération internationale JICA pour la mise en œuvre de la technologie de purification d'eau avec la méthode BioCard dans cette région. Cette méthode BioCard est l'un des instruments de la technologie de purification de l'eau pour maintenir la qualité de l'eau et de l'environnement contre la pollution des déchets ménagers et industriels. Cela a été dit par le maire de Bekasi, Rahmat Effendi, à Bekasi, après avoir reçu une dizaine de représentants de JICA sur plusieurs projets de bassins de rétention dans plusieurs zones locales. Des représentants des spécialistes de l'eau de JICA, à savoir Koichi Suzuki, Toshihisa Kinoshita, Hideyuki Suzuki, Hitoshi Negishi et Hiroyaka Hiyama, ont visité un certain nombre de projets de piscines de rétention dans la ville de Bekasi. Ces emplacements comprennent un bassin de rétention dans le sous-district Galaxy Bekasi du Sud, un bassin de rétention près de Taman Cikas Housing, le sous-district de Sud de Bekasi, le logement de professeurs d'équipe Pondok Gede et le bassin de rétention Pengasinan. Selon elle, l'application du processus de BioCard à la purification de l'eau est succès au Japon et a été immédiatement appliquée dans plusieurs bassins de rétention dans la ville de Bekasi. La Corée du Sud a promis de distribuer une subvention de 10 millions de dollars américains, soit environ 143 milliards roupies à l'Indonésie afin de réhabiliter et de reconstruire les zones touchées par le séisme et le tsunami à Palu et dans les environs, dans le centre de Sulawesi. Le ministre de la Planification du Développement National entend également le chef de l'Agence nationale de planification du développement national, Bambang Brojonegoro, a déclaré mardi à Jakarta, après avoir rencontré l'ambassadeur de la Corée du Sud, Kim Chang-beom, qu'un montant d'un million de dollars avait été versé à l'Agence nationale de la gestion des catastrophes, BNPB. Sur les 9 millions de dollars restants de subvention, 2,5 millions de dollars ont été accordés à l'Indonésie le 11 octobre 2018 sous la forme de dons de 160 unités de tentes et la livraison de 2 avions de transport militaire C-130 Hercules du 8 au 26 octobre 2018. La Corée du Sud a également déployé l'avion de transport militaire C-130 Hercules du 9 au 30 novembre 2018. Le reste de l'aide de 7,5 millions de dollars américains, a affirmé M. Bambang, sera utilisé pour les projets supplémentaires de relocalisation de résidents et pour des projets de reconstruction en tant que programme de subvention pluriannuelle de l'Agence coréenne de coopération internationale, COICA. Le ministère indonésien des Transports est disposé à collaborer avec des parties privées et des sociétés étrangères du secteur de l'aviation dans la région indonésienne afin de garantir la disponibilité des services au public conformément aux normes de sécurité, de sûreté et de services de vol. Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré dans une déclaration écrite reçue par Antara à Jakarta jeudi que la croissance rapide du trafic aérien en raison d'un changement dans les habitudes de consommation qui en impact sur la quantité de ressources nécessaires. Cela encourage le gouvernement et le secteur privé à participer à la création et à l'innovation à la fois en termes de gestion et de fonctionnement. Concernant cette question, le gouvernement, dans ce cas-ci, le ministère des Transports, donne la priorité au programme de financement alternatif pour répondre à la disponibilité des services à la communauté. Le ministre indonésien de l'Industrie, Airlangga Hartarto, a déclaré mercredi, d'après un rapport de la Banque mondiale en 2017, l'Indonésie était en mesure de se classer au premier rang parmi les pays de l'ASEAN pour la contribution du secteur manufacturier à l'économie mondiale qui atteint 20,5%. L'Indonésie se classait au cinquième rang mondial des pays ayant rejoint le G20. En se référant aux données de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONU dit, l'Indonésie se classe au quatrième rang mondial dans 15 pays dont la contribution de l'industrie manufacturière au produit intérieur brut plus de 10%. Les données de l'ONU dit montrent que dans les pays industrialisés, la moyenne des dépôts de produits manufacturiers par rapport au produit intérieur brut n'a atteint que 17%. L'Indonésie peut contribuer jusqu'à 22%. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteur, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et en pour le titre Forum de Bali pour la démocratie ou BDF. Aujourd'hui et demain, les 6 et 7 décembre 2018, 10 ministres et un chef d'État, ces Nauru sont présents au Forum de Bali pour la démocratie, ou BDF 2018. Cette année, l'événement annuel organisé par le ministère indonésien des Affaires étrangères entre dans sa 11e année. En 2017 et 2018 sont spéciaux parce que ces deux dernières années, l'Indonésie a réussi à ouvrir deux succursales FBD appelées FBD Chapter. Un pour l'Afrique en Tunisie et un pour l'Europe à Berlin en Allemagne. Ces deux branches ont été créées en raison de l'intérêt des pays d'Afrique et de l'Europe pour le dialogue sur les défis de la démocratie aujourd'hui qui augmente. Mais le type de traitement des problèmes ne peut pas être uniforme car chaque continent a une histoire de problèmes différentes. Avec l'Europe, par exemple, on discute des défis de la migration contemporaine et de la façon dont les valeurs démocratiques peuvent donner la priorité à l'humanité et aux droits de l'homme. Avec l'Afrique, la question d'une gouvernance juste. Cette année, le thème du Forum de Bali pour la démocratie est « Démocratie et bien-être ». La plupart des pays du monde considèrent la démocratie comme le meilleur système étatique. Comment les pays démocratiques peuvent atteindre la prospérité? Peut-être cette question sera discutée par les participants au Forum de Bali pour la démocratie. En effet, l'objectif d'un pays qui a été fondé est pour le bien-être de sa population. Dans le système démocratique, l'État est géré avec la participation inclusive de la communauté. En outre, le système démocratique doit également pouvoir répondre aux aspects des objectifs de l'État, à savoir le bien-être. Chaque pays a sa propre expérience en matière de développement de la démocratie. La démocratie se développe dans chaque pays de manière différente. En fait, il n'existe pas de formule démocratique similaire applicable dans tous les pays. L'Indonésie est fière d'organiser un forum sur la démocratie depuis 11 ans. Non pas pour encourager la démocratie dans les autres pays, mais pour donner aux différents pays la possibilité de partager leurs expériences démocratiques. Espérons que le Forum de Bali pour la démocratie. C'est Ruta, c'est le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Nous commençons par le jour de l'indépendance de la Finlande. Le royaume de Finlande, depuis 1809, a été colonisé par l'Empire russe et devenu une région autonome. Mais la révolution bolchevique par des communistes russes en octobre 1917 a ouvert la voie à l'indépendance de la Finlande. La déclaration a été fixée par le Parlement finlandais le 6 décembre 1917. Elle déclarait la Finlande comme État indépendant en mettant fin à son statut de région autonome de l'Empire russe. Mais la Finlande est arrivée à l'indépendance officielle le 3 janvier 2018. Les différends sur la zone frontalière furent alors réglés dans l'accord de Tartu signé en 1920. Le 6 décembre 1922, la déclaration de l'Irlande indépendante. Les Britanniques ont dirigé l'archipel irlandais depuis le 12e siècle. Au 16e siècle, la reine d'Angleterre, Elizabeth I, a encouragé l'immigration à grande échelle de protestants écossais en Irlande. Au cours des siècles suivants, les rébellions engendrées par le peuple autochtone Irlande catholique ont été étouffées par le renforcement de la domination de la minorité anglo-irlandaise. Le mouvement irlandais a pris de l'ampleur à la fin du 19e siècle. En 1921, les deux partis ont convenu de procéder à un cessez-le-feu. La faction nationaliste irlandaise a signé un accord de paix avec la Grande-Bretagne. Ils ont demandé à la séparation de l'Irlande ainsi qu'un droit autonome pour la région du Sud, tandis que les 6 États du Nord des îles irlandaises faisaient toujours partie du Royaume-Uni. La guerre civile a éclaté avant la déclaration de l'État irlandais indépendant le 6 décembre 1922. L'armée d'État irlandaise indépendante a remporté la victoire en 1923. En 1937, la Constitution irlandaise a déclaré que l'Irlande était un pays souverain, indépendant et démocratique. L'Irlande indépendante a ensuite été nommée Éire et restée neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1949, la loi de la République d'Irlande a mis fin aux élections restantes avec le Commonwealth britannique. Le 6 décembre 2014, le Festival du film indonésien, ou FFI, a été ouvert et le président y a assisté. Le Festival du film indonésien, FFI 1 2014 à Palembang, est la première manifestation qui a été inaugurée par le président indonésien Joko Widodo. Depuis 1955, c'est la première FFI assistée et ouverte par le président de la République d'Indonésie. Cette fois-ci, FFI a également écrit une nouvelle histoire, à savoir le prix de la Coupe de Citra pour le grand écran et de la coupe de Vidya pour les films télévisés combinés en seul. Et chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici mon Indonésie intitulé La Banque DDC développe l'économie communautaire circulaire. Rosa Vivienne, la directrice générale de la gestion des déchets, des matières dangereuses et toxiques au DCB3 a déclaré que la banque des déchets avait contribué à la réduction de 1,7% des déchets nationaux contre environ 1,38 tonnes par an avec un revenu moyen de 1,4 milliard de rupiah par an. Des avantages économiques circulaires sont obtenus de la gestion des déchets effectuée par les banques de déchets en appliquant le principe des 3R, cela veut dire réduire, réutiliser et recycler. Elle a déclaré que la participation active de la communauté au traitement des déchets à la source était la clé du succès de la gestion de la banque de déchets. Cela a été dit par Rosa Vivienne à l'ouverture de la 5e réunion de travail national de la banque de déchets sur le thème « La révolution mentale de la gestion des déchets à travers l'engagement communautaire basé sur les déchets » qui a eu lieu à Jakarta lundi. Selon Rosa Vivienne, la croissance de la banque de déchets est passée d'environ 1000 unités en 2015 à environ 5000 unités en 2017. Toutes sont réparties dans 34 provinces et 219 régions ou des villes en Indonésie. L'existence d'une banque de déchets a un impact positif à la fois sur l'environnement social et l'économie, à savoir la réduction des déchets nationaux, la création d'emplois et la création de revenus supplémentaires. La banque de déchets de Jakarta West a un chiffre d'affaires annuel de 4,5 milliards de rupiah. Selon Rosa Vivienne, le problème des déchets est le problème national de l'Indonésie, notamment dans les grandes villes. La quantité de déchets augmente parallèlement à la croissance démographique, les progrès technologiques et les changements de mode de vie des Indonésiens qui cherchent des solutions pratiques. En conséquence, les types de déchets sont de plus en plus diversifiés. En outre, le niveau de sensibilisation du public est encore faible, qui provoquent des déchets ne sont pas gérés de manière optimale à la source. En fait, beaucoup de déchets sont dispersés dans l'environnement et aboutissent dans la mer. 80% des déchets en mer provenaient de la terre et 20% restants proviennent de l'activité en mer. En réponse à ce phénomène, de nombreux programmes d'initiatives ont été faits par la banque de déchets pour inviter le public à les apporter à la banque de déchets. L'objectif est de réduire la quantité de déchets qui sont envoyés au site d'élimination finale du déchet et de régénérer des avantages économiques circulaires. Un certain nombre de programmes comprennent des programmes pour payer les écoles avec des déchets dans la ville de Cimahi, payer l'électricité avec des déchets et acheter de la nourriture avec des déchets à Makassar, et ensuite payer les frais médicaux avec des déchets dans la ville de Malang. Pegadaian a également lancé récemment la création de 59 banques de déchets dans toute l'Indonésie en invitant la population à conserver des déchets pour obtenir de l'or. Chers amis, c'était mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a affirmé qu'elle avait communiqué avec le ministre des Affaires étrangères saoudien, Adel Al-Jubeir, au sujet de la déclaration de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Indonésie, Oussama Ben Mohamed Abdullah Al-Shuaibi, sur les médias sociaux. Concernant cette question, selon la ministre Retno, le gouvernement saoudien ne peut pas tolérer l'acte de l'ambassadeur Oussama considéré comme interférer des affaires d'autres pays. La ministre Retno LP Marsudi s'est entretenue avec son homologue saoudien Adel Al-Jubeir le mardi. Elle a déclaré à la presse que les deux ministres ont discuté de la poursuite de la coopération entre l'Indonésie et l'Arabie saoudite après la visite d'Adel Al-Jubeir il y a quelque temps à Jakarta. Selon Mme Retno, ils ont également discuté de la déclaration de l'ambassadeur d'Arabie saoudite en Indonésie, Oussama Ben Mohamed Abdullah Al-Shuaibi, qui avait été téléchargé sur Twitter. À ce sujet, Mme Retno a déclaré que le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, avait souligné que l'Arabie saoudite n'avait pas de politique permettant aux ambassadeurs d'interférer des affaires intérieures des autres pays. De plus, l'Indonésie est un pays ami de l'Arabie saoudite. Le gouvernement saoudien ne tolérera pas les déclarations considérées comme intel ingérence.
Dan tidak bisa dihindarkan bahwa kita juga bicara mengenai masalah isi dari...
Et il est inévitable que nous parlons également la question du contenu de Twitter de l'ambassadeur à Jakarta. Au cours de l'entretien, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite a souligné que son pays n'avait pas de politique et ne tolérerait aucune ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, en particulier si elle se déroulait dans un pays ami de l'Arabie saoudite comme l'Indonésie. Auparavant, l'ambassadeur d'Arabie saoudite en Indonésie, Oussama Ben Mohamed Abdullah Al-Shuaibi, avait fait une déclaration concernant l'action de la réunion du mouvement de 112 il y a quelque temps à Jakarta. Selon lui, le mouvement était une réaction à l'incendie d'un drapeau avec les mots « Tawhid » écrit par des membres d'une organisation de masse il y a quelques mois. L'ambassadeur Oussama a également mentionné que l'organisation de masse était une organisation mal avisée. Bien que la déclaration sur Twitter des médias sociaux ait été supprimée quelques temps plus tard, le téléchargement a attiré l'attention des Indonésiens. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, MPR, Hidayat Nur Wahid, a proposé diverses industries stratégiques indonésiennes avec des produits développés et de bonne qualité à Oman. Les produits proposés sont déjà commercialisés et utilisés par d'autres pays tels que les Philippines et la Thaïlande. Cela a été dit par Hidayat Nur Wahid lors d'une visite à l'Assemblée d'État d'Oman à Mascate, Oman, du 2 au 4 décembre. Antara a rapporté mercredi l'arrivée de Hidayat Nur Wahid et d'autres délégués du MPR, Abdul Fikri Faqih, Muhammad Syafruddin et de l'ambassadeur d'Indonésie, Mustafa Taufik Abdul Latif, ont été accueillis et reçus par le président de l'Assemblée de l'État d'Oman, Yahya bin Mahfouz al-Munziri. Selon Hidayat, la longue distance entre l'Indonésie et l'Oman n'est pas l'obstacle pour les deux pays d'établir des liens d'amitié et de coopération. L'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Guérin, a déclaré mardi que le certificat indonésien d'huile de palme durable, ISPO, n'était pas suffisamment reconnu pour exporter cette huile vers l'Europe. Selon Vincent, l'Union européenne ne fixe pas de normes spécifiques pour l'huile de palme. En tant que deuxième importateur d'huile de palme indonésien après l'Inde, l'Union européenne encourage les pays producteurs à imposer aux consommateurs des normes crédibles, fortes et valorisées par les consommateurs. La norme d'ISPO, qui n'est appliquée que par 15% des producteurs d'huile de palme indonésie, n'est pas encore conforme à la norme mondiale. Il a affirmé qu'un certain nombre de certificats d'huile de palme a été produit en appliquant les principes de durabilité. L'une d'elles est la table ronde sur l'huile de palme durable, RSPO, est en effet plus mondialement reconnue. Fondée en 2004, RSPO a été conçue pour promouvoir la production et la consommation d'huile de palme durable pour l'homme, la planète Terre et la prospérité. 40% des producteurs mondiaux d'huile de palme sont les membres de la table ronde sur l'huile de palme durable RSPO. La ville de Bekasi dans l'ouest de Java coopère avec l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, pour la mise en œuvre de la technologie de purification d'eau avec la méthode BioCart dans cette région. Cette méthode BioCart est l'un des instruments de la technologie de purification de l'eau pour maintenir la qualité de l'eau et de l'environnement contre la pollution des déchets ménagers et industriels. Cela a été dit par le maire de Bekasi, Rahmat Effendi, à Bekasi, après avoir reçu une dizaine de représentants de JICA sur plusieurs projets de bassins de rétention dans plusieurs zones locales. Des représentants des spécialistes de l'eau de JICA, à savoir Koichi Suzuki, Toshihisa Kinoshita, Hideyuki Suzuki, Hitoshi Negishi et Hiroyaka Hiyama, ont visité un certain nombre de projets de piscines de rétention dans la ville de Bekasi. Ces emplacements comprennent un bassin de rétention dans le sous-district Galaxy Bekasi du Sud, un bassin de rétention près de Taman Cikas Housing, le sous-district de Sud de Bekasi, le logement de professeur d'équipe Pondok Gede et le bassin de rétention Pengasinan. Selon elle, l'application du processus de BioCart à la purification de l'eau est succès au Japon et a été immédiatement appliquée dans plusieurs bassins de rétention dans la ville de Bekasi. La Corée du Sud a promis de distribuer une subvention de 10 millions de dollars américains, soit environ 143 milliards de roupies à l'Indonésie afin de réhabiliter et de reconstruire les zones touchées par le séisme et le tsunami à Palu et dans les environs dans le centre de Sulawesi. Le ministre de la Planification du Développement National entend également le chef de l'Agence nationale de planification du développement national, Bambang Brojonegoro, a déclaré mardi à Jakarta, après avoir rencontré l'ambassadeur de la Corée du Sud, Kim Chang-beom, qu'un montant d'un million de dollars avait été versé à l'Agence nationale de la gestion des catastrophes, BNPB. Sur les 9 millions de dollars restants de subvention, 2,5 millions de dollars ont été accordés à l'Indonésie le 11 octobre 2018 sous la forme de dons de 160 unités de tente et la livraison de 2 avions de transport militaire C-130 Hercules du 8 au 26 octobre 2018. La Corée du Sud a également déployé l'avion de transport militaire C-130 Hercules du 9 au 30 novembre 2018. Le reste de l'aide de 7,5 millions de dollars américains, a affirmé M. Bambang, seront utilisés pour les projets supplémentaires de relocalisation de résidents et pour des projets de reconstruction en tant que programme de subvention pluriannuel de l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA. Le ministère indonésien des Transports est disposé à collaborer avec des parties privées et des sociétés étrangères du secteur de l'aviation dans la région indonésienne afin de garantir la disponibilité des services au public conformément aux normes de sécurité, de sûreté et de services de vol. Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré dans une déclaration écrite reçue par Antara à Jakarta jeudi que la croissance rapide du trafic aérien en raison d'un changement dans les habitudes de consommation qui a un impact sur la quantité de ressources nécessaires. Cela encourage le gouvernement et le secteur privé à participer à la création et à l'innovation à la fois en termes de gestion et de fonctionnement. Concernant cette question, le gouvernement, dans ce cas-ci, le ministère des Transports, donne la priorité au programme de financement alternatif pour répondre à la disponibilité des services à la communauté. Le ministre indonésien de l'Industrie, Airlangga Hartarto, a déclaré mercredi, d'après un rapport de la Banque mondiale en 2017, l'Indonésie était en mesure de se classer au premier rang parmi les pays de l'ASEAN pour la contribution du secteur manufacturier à l'économie mondiale qui atteint 20,5%. L'Indonésie se classait au cinquième rang mondial des pays ayant rejoint le G20. En se référant aux données de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONU, l'Indonésie se classe au quatrième rang mondial dans 15 pays dont la contribution de l'industrie manufacturière au produit intérieur brut plus de 10%. Les données de l'ONU montrent que dans les pays industrialisés, la moyenne des dépôts de produits manufacturiers par rapport au produit intérieur brut n'a atteint que 17%. L'Indonésie peut contribuer jusqu'à 22%. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé Musée de Oei Hong Jien. Magelang est une ville de la province de Java Central. Elle est située au pied du mont Merapi. Cette ville est visitée par de nombreux touristes locaux et étrangers. Ils visitent généralement le plus grand temple d'Asie du Sud-Est, c'est le temple de Borobudur. De nombreux touristes, y compris des touristes étrangers, visitent également le musée de Oei Hong Jien, en particulier des touristes qui s'intéressent aux valeurs artistiques élevées. Dans ce musée, il existe divers souvenirs, des preuves de la civilisation humaine de temps en temps. L'emplacement est sur Jalan Jenggolo 14, Magelang. Pour atteindre le lieu touristique, il vaut environ une heure de l'aéroport international Adi Sucipto, Yogyakarta. Le musée Oei Hong Jien est un musée privé appartenant à un célèbre collectionneur de peintures, Dr. Oei Hong Jien. Il est un médecin né à Magelang dans les années 1970. Oei Hong Jien, surnommé Uhadi, a commencé à collectionner divers tableaux. Après le nombre de peintures augmente en 1997, il a construit un bâtiment pour stocker les collections. Le deuxième bâtiment a été construit en 2006. Ce musée privé a été ouvert au public qu'en avril 2012. Le musée de Oei Hong Jien possède une collection de plus de 2000 œuvres d'art composé d'œuvres des Indonésiens. Cette œuvre a été réalisée par deux grands artistes indonésiens tels que Afandi, S. Sujojono, Hendra Gunawan, Widayat et Sudibyo. Non seulement les œuvres de grands artistes qui sont exposées dans ce musée. Ici, les nouveaux artistes exposent leur créativité. Ce qui est intéressant à propos de ce musée, c'est que les œuvres sont fabriquées non seulement à partir de nouvelles matières premières, mais également à partir de matériaux usés. En outre, le musée de Oei Hong Jien a été nommé par le musée de record du monde en Indonésie, ou MURI, dans la catégorie des entrepôts de tabac, qui est devenu le musée présentant la collection la plus complète de peintures indonésiennes, représentant chaque période. Ce musée est également inclus dans le musée le plus complet en Indonésie et dans le monde. Le musée de Oei Hong Jien est ouvert au tourisme public tous les jours de 10h à 17h et le musée est fermé le mardi. Le prix d'entrée pour profiter des collections d'un musée n'est pas si cher. Les prix des billets sont regroupés en deux catégories, à savoir les touristes étrangers et les touristes locaux. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta, intitulé Musée de Oei Hong Jien. Merci à tous et à bientôt.
warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, intitulée Le temps Joglo Semar Kerto. Le 1er décembre, PT KIA ou Chemin de Fer Indonésien a lancé le service de relations ferroviaires Semarang Solo Yogyakarta Kroya Purwokerto Tegal Pekalongan sous le nom de Chemin de Fer Joglo Semar Kerto. Avec la nouvelle relation du train Joglo Semar Kerto, Edi Sukmoro, directeur général de KAI, espère que cela pourra fournir des options de connectivité dans le but de se rendre à Semarang, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal et les régions environnantes afin de soutenir la croissance économique et le tourisme dans le pays. La distance totale parcourue par ce train autour du chemin de fer dans la région de Java Central est 579 km. Le train de Joglo Semar Kerto utilise une série de deux voitures de fonction d'une capacité de 100 places, 50 places par voiture et 7 voitures économiques d'une capacité de 560 places, 80 places par voiture. Le train Joglo Semar Kerto prépare 3 circuits de train. La présence de ces 3 trains devrait répondre aux besoins des résidents de Java Central en matière de transport pour se rendre dans le corridor de correspondance dans les villes de la région situées autour de Java Central. Chaque jour, il y a 3 points de départ initiaux pour le train, à savoir depuis la gare de Semarang Tawang, les stations Solo Balapan et Purwokerto. Heure de départ de la gare de Semarang Tawang est 6h15. Le temps Indonésie occidentale de la station Solo Balapan à 6h temps d'Indonésie occidentale et de la station Purwokerto à 5h temps d'Indonésie occidentale. Les tarifs de train Joglo Semar Kerto sont divisés en différents groupes, ajustés en fonction de la distance et du type de service de train. Le tarif de la classe de train Joglo Semar Kerto peut aller à 40 000 jusqu'à 390 000 rupiah et l'économie entre 30 000 et 260 000 rupiah selon la distance parcourue. Toutefois, pour les personnes qui voyagent avec ce train, entre 1er et 13 décembre 2018, KAI accorde un rebais de 10%. Les billets de train peuvent être commandés par deux canaux externes, par la vente de billets de train ou via l'application KAI Access depuis le mobile. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc le magazine musical. Pour la rubrique suivante, nous vous présentons le groupe musical Kahitna.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Depuis le début de la formation du groupe musical Kahitna, ses membres ont changé plusieurs fois. Les membres de Kahitna à présent sont Yovi comme pianiste et claviériste, Mario Ginanjar, Hedi Yunus et Carlos Sabah comme chanteur, Dodi Isniani, bassiste, Hari Suhardiman, percussiste, Bambang Purwono, claviériste, Budiana Nugraha, batteur et Andri Bayu Aji, guitariste. Ce groupe musical peut survivre jusqu'à présent. Bon, serviteurs et serviteurs, maintenant Kahitna va chanter pour vous la chanson intitulée Belle. Bonne écoute. Serviteur, c'était la chanson de Kahitna intitulée Belle. Kahitna, dirigé par Yovi Widianto, il produit des chansons avec le thème de l'amour, avec des superbes arrangements musicaux. Kahitna combine avec succès de jazz, pop, fusion et ethnique. à la 25e anniversaire de Kahitna, les 10 chansons légendaires incluses dans un album intitulé « L'histoire d'amour ». À l'âge de 26 ans, Kahitna a organisé un concert « L'histoire d'amour » qui est leur plus grand concert et 3500 billets de concert ont été vendus. Sur le tard, on écoutera une chanson intitulée « S'il sait ». Bonne écoute.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya. Jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi. Hasratku tak tertahan untuk dapat. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku. Andai dia tahu.
Rita, merci d'écouter la voix indonésienne diffusée depuis Jakarta. C'était la chanson du groupe de musique Kahitna intitulée S'il sait. Bon, chers auditeurs, avant de terminer cette émission, nous allons présenter la dernière chanson intitulée À demain. Merci à tous, à bientôt.
Harap ingin
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Ainsi, ça termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.